l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Laurence Bloch, co-auteur avec Didier Bloch du livre « Les lettres d'Irma, les fragments d'une correspondance de mars 1943 à mars 1944 de Nancy à Écrouve, entre une mère et son fils, pour l'essentiel ». Laurence Bloch, bonjour.
Bonjour Madame Vial et merci de me recevoir.
Irma, alors c'est votre grand-mère, c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu, qui a connu un destin tragique. On y reviendra un peu plus tard. Pour vous, avant de tomber sur ces lettres, qui était-elle dans votre imaginaire de petite fille, pour commencer ?
Alors, dans mon imaginaire de petite fille, évidemment, c'était la mère de mon père, que nous n'avons pas connue et dont on a beaucoup entendu parler par mon père. Et cette dame que j'imaginais, grâce à la seule photo que mon père avait pu conserver lorsqu'il a quitté ses parents à Nancy, on voyait une dame avec un air un peu austère, je dirais. Voilà, donc c'était cette grand-mère dont on m'a beaucoup parlé et que je n'ai pas connue.
On vous en a parlé, on vous a raconté également, vous étiez peut-être trop jeune à un moment, mais à quel moment on vous a parlé de son triste destin ?
Alors, aussi loin que je me souvienne, mon père nous a toujours dit comme une injonction à ne pas oublier que nos grands-parents étaient morts à Auschwitz. Donc, mon père trop tôt disparu, puisque j'avais 12 ans quand il est disparu. Et à l'époque, nous étions des enfants insouciants et peu enclins à nous souvenir, à nous intéresser surtout à cette période de l'histoire, comme tout enfant qui soit. Parce que quand on est un enfant, on a souvent un côté un peu égoïste et on ne s'intéresse évidemment pas à ces choses-là. Donc, on le savait. Et la vie a fait qu'on a avancé, on a dû chacun vivre sa propre vie. Et c'est beaucoup plus tard, à l'âge adulte, que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ma famille et à l'histoire de cette partie de la famille.
Alors Irma, Emma, hein, c'est deux prénoms. Elle a correspondu avec votre père, lui qui était parti en zone libre. Et à travers ses lettres, on découvre plutôt sa trajectoire. Elle arrive dans un camp de prisonniers à Écrouve, de Nancy à Écrouve. Vous avez découvert cette trajectoire à travers des lettres écrites en allemand. C'est une correspondance. Comment est-ce que vous êtes tombée sur ces lettres ? Il y en avait une, il y en avait... Qui est arrivé à une autre, comment est-ce que vous avez rassemblé l'ensemble de cette correspondance ?
Alors je dois dire, c'est d'abord une histoire assez extraordinaire. Je savais que j'avais ces lettres, ma mère me les avait données, et au fil de mes nombreux déménagements au cours de ma vie professionnelle, j'avais ces lettres avec moi. Je crois que pour les aborder, il faut être prêt, il faut avoir traversé des épreuves, il faut pouvoir les lire, les accepter, les recevoir. Je pense que je n'étais pas prête. Je savais que j'avais ces lettres. Dans un premier temps, dans les années 95, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ma famille, sachant que mes grands-parents, que Maurice et Irma, parce que pour revenir sur son nom, Irma est née Emma Blum à Balbronn en 1891, mais a toujours été appelée Irma dans toute la famille. Et sur les documents officiels, elle apparaît sous le nom de Emma et de Irma. Mais toute la famille l'appelait Irma. Et quand mon père nous a parlé d'elle quand on était petit, on savait qu'elle s'appelait Irma. Donc, dans les années 90, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est là que j'ai été en lien avec Madame Job, qui est une historienne spécialisée sur l'histoire des Juifs lorrains, mosellans, surtout lorrains, et qui est spécialiste du camp d'Écrouve. Et donc, je l'avais appelée pour lui dire « Écoutez, voilà, je recherche des informations sur mes grands-parents qui sont morts à Auschwitz. » Et là, elle me demande les noms et prénoms de mes grands-parents. Et ce jour-là, elle me dit « Mais Laurence, votre grand-père n'est pas mort à Auschwitz. » Il est mort au camp d'Écrouve. Donc ça a été une découverte assez extraordinaire parce que mon père nous a toujours dit « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vos grands-parents sont morts à Auschwitz. » Et donc, mon frère est allé au cimetière de Toul puisqu'elle nous avait expliqué que les Juifs morts au camp d'Écrouve étaient enterrés au cimetière de Toul. Nous étions dans le fol espoir de trouver quelque chose, mais vous pouvez imaginer que 50 ans après, il n'y avait évidemment rien. Mon grand-père a été enterré le 20 mars 44 en pleine guerre, donc il n'y avait rien. Donc on savait qu'il était là-bas, mais c'est tout. Et j'avais été étonnée parce que dans les listes de Klarsfeld, il n'y a que ma grand-mère qui apparaissait. Et je me demandais si c'était une erreur. Voilà, donc mon père étant mort en 69, les listes de Klarsfeld n'étaient pas encore sorties à cette époque-là. Et donc forcément, on n'a pas pu savoir que lui était mort à Écrouve. Et je savais que j'avais ces lettres, ma mère me les avait données. Et il y a un an et demi... Voilà, suite à des changements dans la vie et peut-être au fait que j'étais prête à aborder ça, je me suis dit, je vais m'occuper de ces lettres. Je ne parle pas un mot d'allemand, donc je me suis dit, je vais les donner à traduire.
Vous n'en connaissiez pas la teneur du tout ?
Pas du tout. Je savais que c'était une correspondance entre ma grand-mère et mon père, mais c'est tout. Ne lisant pas l'allemand, je ne savais pas ce qu'elle contenait. J'en parle à mon frère qui me dit, mais moi aussi, j'ai des lettres que j'ai retrouvées. On les a mis bout à bout, on les a ordonnés au niveau des dates et on a trouvé une traductrice merveilleuse, Madame Kerr, à Colmar, qui est historienne elle-même, à qui on les a donnés. Et quelques jours après, elle m'appelle et elle me dit « je voudrais vous voir ». Donc on se rencontre, elle en avait traduit plusieurs et elle me dit « je suppose que vous voulez en faire une publication intrafamiliale », ce qui était l'objet.
Oui.
Voilà, pour le laisser à nos enfants, à mes neveux, voilà. Et elle dit, écoutez, Laurence, au regard de ce qu'elles contiennent, je pense qu'il faut en faire une autre publication. Et je connais une maison d'édition à Strasbourg avec qui je vais vous mettre en relation. C'est donc une édition à bout de chemin, édition dont la directrice est Madame Angelita Martins, qui fait uniquement des récits de vie. Et donc, je me suis mise en relation avec elle. Elle a été très intéressée au regard de la traduction des lettres. Et c'est comme ça que cette histoire incroyable a commencé.
Des lettres très tendres d'une mère, d'un père envers son fils. En fait, c'est la grande histoire revisitée par des petits bouts de quotidien, de colis envoyés, de choses arrivées, de remerciements, de savoir l'autre en bonne santé. C'est la teneur quand même du livre. Et qui raconte la grande histoire ?
Alors c'est tout à fait ça. Ces lettres, c'est avant tout un message d'amour à mon père, enfant unique, qui a quitté ses parents en juillet 42 pour passer en zone libre. Libre avec une vraie fausse carte d'identité qu'il avait gardée. Donc ce qu'on sait de cette histoire, c'est que mes parents étaient strasbourgeois, mes grands-parents étaient strasbourgeois d'habitation, parce que mes grands-parents, Maurice Bloch et Irma Neblum, faisaient partie de ces juifs qu'on appelait les Landsiede, les juifs de la campagne, qui étaient nés dans la campagne alsacienne avec une vraie foi et qui la pratiquaient de la façon la plus simple possible, et avec une vraie ferveur, malgré toutes les difficultés de la vie. Et donc, ils sont venus s'installer à Strasbourg, où mon grand-père était ailleurs, et où mon père est né. Et au regard de ces lettres, évidemment, nous avons fait des recherches. Et ces lettres, elles contiennent évidemment le quotidien de mes grands-parents pendant la guerre, jusqu'au moment où ils ont été raflés le 2 mars 44 pour le camp d'Écrouve. Mais toutes ces lettres sont empreintes de leur quotidien, de la difficulté de vivre, mais aussi de l'espoir fou qu'ils allaient revoir leur fils, que la guerre allait s'arrêter. Et c'est ce qui les rend très, très émouvantes parce que ces lettres ne sont jamais dans la plainte. Jamais, jamais. Malgré toutes les difficultés, ma grand-mère fait bonne figure et semble très courageuse. Là, leur seul souci, c'est que leur fils soit en bonne santé et aille bien. Donc mon père les a quittés en juillet 42 et passé en zone libre. Est allé d'abord voir des cousins à Marmande et ensuite est allé s'installer d'abord à Saint-Étienne et ensuite à Roanne. Et donc, au travers des lettres, on suit la correspondance parce que les lettres que grand-mère reçoit, elle lui dit « Bon, je vois qu'à Saint-Étienne, tu fais telle activité, tu peux travailler, mais tu travailles à l'usine aussi. » Ensuite, on sait « Voilà, j'ai eu ta lettre de Roanne. » Et ces lettres sont extrêmement émouvantes parce que elles parlent de leur quotidien et le quotidien de gens très simples et qui croisent des événements historiques extrêmement importants et qui ont été corroborés par Madame Job. Et c'est ce qui les rend attachants parce qu'il n'y a pas de plainte dans ces lettres. Il n'y a que la vie, l'espoir, le désespoir, le courage, la peur. Parce qu'on apprend qu'à Nancy, par exemple, les Juifs ne pouvaient sortir qu'une heure, de 15 à 16 heures, pour faire leurs courses et aller faire valoir leur bon d'alimentation. On voit que ma grand-mère, elle le dit, qui était jeune à l'époque, elle n'avait que 53 ans, fait des courses pour des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Mais on sent la peur qui est là, constante. Le fait du port de l'étoile jaune depuis la loi de 42, du 29 mai 42, qui ordonne le port de cet insigne stigmatisant, dégradant, on sent que la peur est constante, qu'ils craignent tout le temps pour le lendemain, pour leur devenir, pour leurs amis. Et ça, c'est extrêmement touchant parce que leur seul souci, c'est le devenir de leur fils. Alors, il y a des moments aussi très drôles dans ces lettres. Ils ont beaucoup d'humour et on sourit aussi en lisant ces lettres. Et c'est ça qui les rend attachants et qui fait que c'est un moment d'histoire important.
Jusqu'à cette dernière lettre, qui n'est pas complète d'ailleurs, où elle dit se préparer à partir, c'est deux jours avant qu'elle soit effectivement déportée direction Auschwitz. Et là encore, vous le disiez, la peur, on la sent, mais elle n'est pas clairement émise. En fait, il y a quelque chose qui reste dans le, entre guillemets, ne t'inquiète pas, ça va aller, qu'elle dit à son fils.
Le seul souci de ma grand-mère, c'est son fils, et mon grand-père aussi, parce que, donc, ils ont vécu à Nancy jusqu'au 2 mars 44, où ils ont été raflés, avec tout le reste des Juifs nanciens qui étaient encore, entre guillemets, libres. Ils ont été d'abord emmenés à la prison Charles III de Nancy, et de là au camp d'Écrouves, au camp d'internement d'Écrouves, qui est à côté de Toul. Et donc, mon grand-père y est mort, et dans aucune des lettres que mon père a reçues et que nous avons, après le 19 mars et le 20 mars où il a été enterré, ma grand-mère ne parle du décès de son mari. On s'est interrogé, on s'est demandé pourquoi. Je pense que c'était une façon de préserver son fils, de lui laisser l'espoir de le revoir. Et même dans ce camp, où elle est séparée de son mari, de Maurice, où ils sont dans des baraquements séparés, elle parle du quotidien, de la vie, des colis qu'ils reçoivent et qui les aident à survivre dans ce camp. Elle y a très malheureusement retrouvé son beau-frère et sa belle-sœur, mon grand-père ayant un jeune frère, Jules, qui a également été interné dans ce camp avec sa femme, avec Blanche, née Arburger, et qui sont partis, pareil, par le dernier convoi qui partait de Toul le 30 mars 1944. Après ce convoi-là, il n'y en a plus eu d'autres. Et c'est donc, en fait, la dernière lettre date du camp d'Écrouves, avant qu'ils ne partent pour Drancy. Et elle n'est pas terminée. Effectivement, il y a une partie de la lettre qui a probablement été perdue, enfin que nous n'avons en tout cas pas retrouvée. Et dans une de ses dernières lettres, ce qui est très touchant, c'est que, pour ma part, je pense qu'elle savait, elle dit « Reçois les derniers baisers de ta maman ». Et ça, c'est extrêmement poignant, touchant, évidemment. 44, c'est 30 mars 44. Ça date de un petit peu avant son départ, puisqu'ils ont quitté Écrouves le 30 mars 44. Pour Drancy, où elle est restée 13 jours, dans des conditions dont beaucoup d'auteurs ont déjà parlé ou de rescapés ont parlé, il semblerait, d'après Madame Job, qui a rencontré des témoins oculaires de l'époque, que ce soit le convoi le plus misérable qu'ils aient vu arriver à Drancy, car ce sont des personnes qui ont vécu 4 ans de guerre, un mois d'internement au camp d'Écrouves, et qui sont arrivés dans le plus grand dénuement. Ils n'avaient rien. C'est le même convoi par lequel le rabbin Ganoer, qui avait suivi les Nancéens, est arrivé. Et tous ces gens étaient dans un état absolument lamentable, quoi. Et suite aux 13 jours passés à Drancy, ils sont ensuite partis par le convoi 71 jusqu'à Auschwitz. Voilà, donc ce qu'on sait, c'est qu'elle est arrivée à Auschwitz. Comme le disait Madame Job, très probablement, au regard de son âge, 53 ans, 54 ans, elle a dû monter dans les camions, signant là son arrêt de mort, quoi. Officiellement, les papiers qu'on a récupérés stipule qu'elle est morte assassinée le 18 avril 1944 à Auschwitz, mais très probablement elle a été assassinée le 16 avril à son arrivée.
Ce convoi dont Ginette Kolinka, elle, s'en sortira.
Voilà, c'est ce fameux convoi, où, le convoi de ma grand-mère, convoi dans lequel étaient effectivement Simone Veil, Marceline Loridan-Ivens et Madame Kolinka, qui, elle, beaucoup plus jeune, ont pu revenir, heureusement, voilà, ont été rescapés. Et ce, nous avons eu le grand privilège de rencontrer cette dame parce que nous avons décidé de faire don de ces 45 lettres. Les lettres d'Irma retracent 45 lettres d'échanges épistolaires entre ma grand-mère et mon père, dont 32 écrites depuis Nancy et 13 lettres quand même écrites depuis le camp d'Écrouves, ce qui n'est pas rien. Il y a aussi quelques lettres écrites depuis Écrouves à sa sœur, à son beau-frère. Et nous les avons remises officiellement au mémorial de la Shoah très récemment, au mois d'octobre. Et Madame Kolinka nous a fait le grand privilège d'être là. Et c'était un moment d'histoire qui continuait parce que personne qui peut-être a côtoyé ma grand-mère dans ce même convoi était là, témoignant de l'existence de ces faits. Et c'était effectivement très, très, très émouvant de la voir là, de la voir présente à nos côtés en ce moment-là, quoi.
Laurence Bloch, merci beaucoup.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.